France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir ce que la crise du coronavirus et surtout le confinement ont changé à notre rapport au numérique. Imaginez un instant un confinement sans ordinateur, ni tablette, ni smartphone, uniquement avec une ligne téléphonique fixe à condition de l'avoir conservée, une télévision sans box internet et un vieux poste radio à pile posé sur le frigo. Cela vous paraît peut-être impensable, c'est pourtant une réalité pour nombre de Français, à commencer par ceux qui vivent en zone blanche, sans accès au numérique, pas de télétravail, de cours à distance, ni d'apéro Skype. Pour les autres, l'outil numérique a tenu, avec toutefois quelques ratés. Reste à savoir si tout le monde y a trouvé son compte, que ce soit pour la vie privée ou la vie professionnelle. Question d'autant plus importante que même avec la levée du confinement, on ne reviendra sans doute pas en arrière pour un certain nombre d'activités, comme le télétravail ou les consultations médicales à distance. Alors, jusqu'où aller pour qu'on n'y perde pas notre âme? Et quid de l'outil numérique lui-même? A-t-il atteint ses limites? Faut-il encore le moderniser? À quand la fibre pour tous? La fin des zones blanches et un équipement à la hauteur pour toute la population. Pour aborder tous ces sujets ce soir, trois invités. Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie d'Orange Cyberdéfense, enseignant à l'école supérieure de la police et auteur de Cybersécurité au PUF. Et Michael Stora, psychologue, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, auteur entre autres de « Et si les écrans nous soignaient ?» C'est chez ARS Éditions. Je salue nos trois invités à distance. Ils attendent vos appels au standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, un premier appel en provenance de Nancy. Céline est au bout du fil. Bonsoir Céline.
Bonsoir Claire.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter. On me dit que vous êtes enseignante, c'est ça?
C'est ça, tout à fait.
Et que donc vous vous êtes mise à enseigner à distance, hein, j'imagine. Comment ça s'est
tout
passé
à
alors
fait. Alors comment ça s'est passé? Ça a été quand même relativement compliqué, notamment les premières semaines, où il a fallu que nous nous approprions un certain nombre d'outils auxquels nous n'étions pas forcément habitués. Et puis, bien entendu, bien s'habituer à ne pas avoir en face de nous ce qui fait en fait l'essence même de notre métier, c'est-à-dire les élèves. Donc, enseigner avec comme seule interface un écran, ce qui a effectivement impliqué de se questionner, de repenser ses séances, de trouver les outils les plus adaptés aux élèves et puis de tenir compte, bien entendu, aussi de leur équipement en informatique et de leur maîtrise même des outils informatiques, puisque nous avons pu découvrir que ce qui pouvait nous sembler évident ne l'était pas. Envoyer un mail pour un collégien, joindre un fichier à un mail pour un collégien, ce n'est pas si évident que cela.
Évidemment, de toute façon, ce n'est pas une solution qui est destinée à perdurer, Céline. Ça a quand même dépanné dans cette situation, non?
Ça a tout à fait dépanné. Voilà, on est content d'avoir pu effectivement continuer à maintenir le lien avec nos élèves, que ce soit via les ENT, les environnements numériques de travail, via éventuellement des classes virtuelles. Ça a permis de continuer l'enseignement, de maintenir le lien. Ça reste néanmoins très, très insatisfaisant.
Et c'est envahissant pour ce qui est de la vie de famille ou pas?
Extrêmement envahissant. Effectivement, j'ai passé des heures incalculables devant mon écran pour mettre en ligne les cours, pour envoyer le travail, pour répondre aux messages des élèves, par exemple. Et puis, quand on est maman d'un élève lui-même collégien, il a fallu aussi gérer en parallèle bien le travail du collégien, les attentes des enseignants et s'organiser effectivement pour que tout un chacun puisse accéder aux outils informatiques. Hein, de temps en temps, un joli jeu de chaise musicale devant l'ordinateur pour que chacun soit au rendez-vous fixé soit par les enseignants, soit avec les élèves. Donc effectivement, ça a été très, très très lourd à gérer.
J'imagine, Céline, que on a l'habitude de dire à son enfant pas trop d'écran, que dans un cas comme celui-là, ben il y a plus de limite, tout vole en éclats, quoi.
Tout vole en éclats. Nous avions effectivement un certain nombre de règles, hein, de limites effectivement à l'usage des écrans. Donc bah, là déjà pour le travail scolaire, il a fallu être connecté très régulièrement. Et puis aussi, il a fallu maintenir le lien social. Nous avons accédé à ces demandes de jouer en ligne parce que c'était le seul canal pour lui de pouvoir rester en contact avec ses amis. Il n'y en avait pas d'autres, effectivement.
Évidemment, ça fait beaucoup. Merci Céline pour...
Je vous en prie, pour merci
à vous. Merci pour ce témoignage, pour cette entrée en matière. Michael Stora, allez, vous êtes psychologue, psychanalyste. C'est vous qui allez prendre la parole en premier pour réagir à ce que vient de nous dire Céline. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le numérique, c'est bien, mais à condition de ne pas en abuser, c'est comme le reste?
Oui, je pense que le terme de dépannage est vraiment le bon terme pour cette période. C'est évidemment cette idée que le numérique, à ce moment-là, vient tout simplement dépanner aussi bien la vie scolaire, la vie sociale. Et à partir de ce moment-là, il ne faut surtout pas imaginer que le numérique viendrait comme suppléer, on va dire remplacer même le présentiel et la vie réelle. Ça deviendrait quasiment cauchemardesque. Et je pense que même si on peut imaginer des prouesses technologiques comme l'utilisation de la réalité virtuelle, on serait quand même presque dans un film d'anticipation, une forme de dystopie un peu à la Black Mirror, qui ferait que finalement le lien réel disparaîtrait pour privilégier une sorte de bonheur numérique. Donc je pense qu'évidemment, on a pu voir à quel point, au-delà du fait d'être professeur, pour beaucoup de parents, mêler télétravail, aider ses enfants et autres, et avec le fait que moi-même j'ai pas mal de patients qui vivent seuls, le numérique a été une aide, mais évidemment que profondément, il nous manque, je dirais presque, une sensorialité évidente qui est celle du toucher. Donc je pense que on ne peut pas imaginer que le virtuel viendrait, je dirais, suppléer à la réalité de nos cinq sens qui nous permettent de nous sentir en lien avec les autres.
En tout cas, ça a été une période exceptionnelle. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Sébastien Soriano, vous qui êtes président de l'ARCEP, on peut dire que ça a été même une parenthèse quoi, révolutionnaire sur le plan numérique, ce qu'on vient de vivre là. Et ce qu'on a d'ailleurs peut-être pas tout à fait terminé.
Oui, on a connu une utilisation des réseaux de communication comme jamais on en avait connu. Vous savez que on raisonne sur les réseaux par pic, et d'habitude le pic de consommation où il y a le plus de population qui se connecte à Internet, c'est généralement le soir, le week-end, où il y a beaucoup de gens qui regardent de la VOD, et là, donc de la vidéo à la demande de type Netflix et autres. Et là, en fait, on a connu ce pic d'usage qui s'est manifesté quasiment en permanence, avec effectivement beaucoup au départ d'échanges entre personnes. Hein, il y a eu un pic de communication téléphonique et vidéo entre personnes pour au tout début du confinement prendre des nouvelles, s'organiser. Et puis on a vu la montée en puissance du télétravail, hein, avec quand même beaucoup d'utilisation de vidéos. Il y a eu l'enseignement, on vient d'en parler, avec au départ des infrastructures, non pas cette fois au niveau du réseau, mais au niveau des serveurs, et notamment l'ENT d'Île-de-France qui a connu un problème de dimensionnement, hein, pour faire face à la sollicitation de tous les élèves. Et puis, bien évidemment, ensuite, un certain nombre d'usages de loisirs qui sont arrivés. Donc, on a une consommation tout à fait anormale qui s'est manifestée. Et je dirais que la première, quand même, bonne nouvelle en tant que régulateur des réseaux, c'est que nous avons constaté que les réseaux ont tenu, c'est-à-dire que les réseaux ont permis d'accompagner l'ensemble de ces échanges. Maintenant, les réseaux, c'est comme une route. Il suffit pas d'avoir construit la route, faut aussi avoir les voitures, donc ça veut dire des ordinateurs, des smartphones pour se connecter, et puis faut avoir le permis de conduire, c'est-à-dire il faut savoir se servir des outils numériques. Et je dirais que c'est peut-être là aussi où on a réalisé à quel point le numérique était un autre monde, et où il y avait non seulement des infrastructures, non seulement des matériels, mais aussi tout un tas de capacités qu'on n'avait pas encore tout à fait développées. Même si elle ne remplace pas, comme ça a bien été dit, le présentiel, il y a des savoir-faire aussi à l'intérieur du numérique pour pouvoir pallier à des situations comme ça qu'on n'avait pas encore complètement acquis.
Attention aux sorties de route, hein, c'est ce que vous sous-entendez. Et ça, Nicolas Arpagian, d'autant plus que certains n'attendent qu'une seule chose, c'est d'en profiter, de s'engouffrer dans la brèche pour profiter du système.
Oui, parce que effectivement, chacun se retrouve à son domicile avec son écran et donc à même de prendre des décisions lorsqu'il faut choisir un système de visioconférence, lorsqu'il faut utiliser un système de messagerie. On voit bien que ça devient des relations personnelles. Chacun vient se renseigner, essayer de chercher des informations sur Internet. On l'a vu à la fois dans le domaine médical avec des sites qui ont cherché à capter les données personnelles des internautes, mais également avec des sites prétendument de l'administration qui chercher à collecter, vous savez, les données qu'il fallait remplir pour avoir cette attestation de sortie, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, l'adresse, tout ça. Effectivement, les pirates sont toujours très opportunistes, ont une grande créativité et s'adaptent rapidement lorsque le contexte justement crée une tension, une crise. Et donc c'est vrai que ça devient un élément de fragilisation. Et donc chacun doit se doter d'un peu de compétences, un peu dans le domaine juridique, parce qu'il faut se dire, tiens, est-ce que je risque quelque chose si j'utilise cet outil? Est-ce que je fragilise mes données personnelles, un peu de technologie parce qu'il faut se poser la question de est-ce que cet outil est performant, est-ce qu'il ne l'est pas, et puis la question de l'économie, est-ce que cette solution gratuite, elle est mieux que cette solution payante, et donc cet homo numericus contraint, puisqu'on l'est devenu en quelques jours à l'occasion de ce confinement, ça a permis aussi quand même le côté positif d'éprouver la numérisation de la société française.
Voilà, un peu de compétences et puis il faut aussi des outils, et ça c'est pas toujours évident. Françoise nous appelle de Chambéry, bonsoir Françoise.
Alors, est-ce que c'est moi? Non.
Mais oui, Françoise.
Moi, je suis de Grenoble, 38. Ah, 73, c'est ma naissance et
je suis
à Grenoble.
Ah, écoute, je suis désolée. Alors,
donc, c'est pas grave.
Mauvaise indication sur ma fiche. En tout cas, le problème, il est bien. Celui de la fracture numérique, c'est celui-là que vous vouliez évoquer.
Donc, je vais évoquer plusieurs points. Vous me direz si je suis trop longue. Je vais commencer par moi, personnellement.
Oui, pas trop.
Faire une conférence téléphonique avec des associations et j'ai une voisine du 3e qui m'envoyait des mails pour ses courses et qui vient de me dire quelque chose que je n'ai pas encore entendu, qu'elle est âgée, qu'elle a la main qui tremble et que du coup elle peut écrire avec son clavier, que c'est beaucoup plus facile que manuscrit. Après ça, je suis dans une association qui s'appelle L'Âge d'Or, qui fait de l'initiation numérique dans toutes les MDH de la ville, qui fait aussi c'est pour rebondir, comme on dit, sur ce que disait le monsieur, des conférences gratuites, même pour les non-adhérents, pour la sécurité informatique, pour les dossiers médicaux partagés, etc. Après, qu'est-ce que j'ai dit? Que cette jeune équipe s'est mise en télétravail tout de suite, a créé une application qui a pu relayer les opérations locales, municipales, entre autres les distributions de repas du CCAS, les sites, les accès à la bibliothèque, etc. On a même une adhérente qui est membre du CA qui nous a pondu des patrons de masques pour les arrière-enfants et les petits-enfants parce qu'elle trouvait que les masques n'étaient pas adaptés aux petits. Donc après, bon, ça vaut ce que ça vaut.
Donc Françoise, je vous arrête, ça veut dire quoi? C'est super le numérique, non?
Alors attention, justement, donc nous c'est pour garder le lien social entre les adhérents, on a aussi des ateliers qui font sur la sobriété numérique, parce que il est vrai que, alors cette sobriété numérique, moi je veux bien en parler, sauf que c'est un peu toujours les mêmes qui peuvent faire Skype avec leurs petits-enfants et leurs enfants, et il y en a qui ont envie de le faire aussi, donc il faudrait développer ça, mais en même temps être vigilant. On a une association qu'on héberge dans nos locaux qui est pour les petits de 8 à 16 ans, qui fait aussi des ateliers avec des conférences sur les écrans, stop le tout écran.
Enfin, vous faites des tas de choses, Françoise.
Il y a plein de choses, mais je vous dis encore un truc important, oui. C'est qu'il y a des parents, parce que j'étais ancienne instite, et il y a des parents d'élèves qui sont venus pour savoir comment faire pour lire les bulletins scolaires de leurs enfants. Parce qu'il y a ce problème-là. Les autres problèmes dont je voulais parler, c'était indépendamment de l'association qui est maintenant dans la métropole et sur 6 autres communes, c'est que j'aimerais bien qu'on fasse un bilan de tous les enfants qui étaient décrocheurs et qui n'avaient pas accès au matériel numérique, ni connecté, ni d'abonnement. Et voilà, ça serait bien qu'avant de mettre en place tout ça... Enfin bon, ça va peut-être servir pour après.
Oui, voilà. Et puis ça, c'est vrai qu'on en a déjà parlé un petit peu lors d'un téléphone sonne consacré à l'école. Mais en tout cas, c'est très intéressant tout ce que vous nous racontez, Françoise. Ça montre que, Michael Stora, il y a des tas de liens qui se sont créés, ne serait-ce que pour donner un coup de main.
Oui, non, mais évidemment, je pense que ça a bien été dit, c'est-à-dire comment le numérique permet de maintenir un lien social. Et c'est évident que dans cette période-là, on a pu voir à quel point, que ça soit des proches, la famille ou autre, on était un peu dans une situation, peut-être même dans des pays où la démocratie était en danger, on a pu voir que les réseaux sociaux avaient une vraie valeur de solidarité, de manière de pouvoir garder un lien et de pouvoir finalement quelque part lutter contre cette sorte d'anxiété sociétale. Maintenant, il faut bien comprendre que je pense qu'il est important tout de même de rappeler que le numérique idéalement doit servir le réel. Et surtout pas le contraire, parce que c'est quand même une tendance qu'avait le numérique et le GAFA de vouloir quelque part faire que le bien-être numérique l'emporte sur le bien-être réel, même si vous savez, Claire, à quel point je suis quelqu'un qui apprécie on va dire les objets numériques, mais je pense qu'il faut leur redonner une place, et j'espère qu'avec les mois qui vont passer et peut-être une sortie possible, nous pourrons revenir vers cette idée qu'il faut replacer le numérique comme simplement un objet qui doit servir notre capacité à être en lien avec l'autre réellement.
Effectivement, Nicolas Arpagian, vous souhaitiez réagir peut-être à ce que disait notre interlocutrice sur le fait d'aider les autres à les former, tout simplement.
En fait, elle a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait une grande place à l'initiative, c'est-à-dire que souvent l'économie de moyens permettait, dès lors qu'on avait une idée, alors effectivement d'agréger des compétences de quelqu'un qui sait faire éventuellement une boucle pour avoir sur les réseaux sociaux, avoir une liste d'adhérents, éventuellement être capable de monter une petite application, et donc c'est la dimension positive, et c'est pour ça qu'il faut peut-être aussi considérer cette période un peu particulière comme une concrétisation d'une relative bascule numérique, et surtout de permettre de préparer, puisque on a identifié un certain nombre de carences, de manquements, de difficultés, bah effectivement que on puisse bénéficier de la valorisation du numérique, se dire effectivement il y a des bonnes choses à en prendre et que ça constitue une étape. Et c'est vrai que ce retour d'expérience, souvent quand il y a une crise, on rechigne, c'est pas forcément dans la culture française de faire l'exercice du retour d'expérience, parce que on est un peu heureux, on veut revenir à une situation normale, on veut un peu tourner la page. Là, ça vaut le coup de se dire tiens, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, et qui de justement pourrait continuer à bénéficier au plus grand nombre, ou en tout cas à être consolidé, à être étoffé. On a vu que le télétravail, avec un équilibre de qualité de vie pour un certain nombre de personnels, c'est évident que ça peut pas fonctionner pour tous les métiers, peut-être pas tout au long de l'année, mais ça peut constituer un élément aussi, pourquoi pas, de réaménagement du territoire. Il y a certainement des enseignements positifs à tirer, constructifs. Simplement, il faut qu'ils soient raisonnés. La crise que nous avons traversée a été soudaine et intense, c'est-à-dire que il a fallu basculer dans le confinement pour tout le monde, ou quasiment, très rapidement. Donc évidemment, c'est pas très propice à l'anticipation, à la réflexion. Bah, profitons maintenant de la période qui s'ouvre pour approfondir cette réflexion avec des acteurs des différents métiers, de manière à pouvoir le faire la manière la plus éclairée possible.
Voilà, et puis peut-être avant tout, Sébastien Soriano, voir si tout le monde a accès au numérique, parce que c'était ce que nous disait aussi Françoise. Elle a dû aider des personnes qui n'avaient pas forcément les outils. Est-ce qu'on a une idée du nombre de Français qui ne sont pas équipés et de gens tout simplement qui n'ont pas accès au numérique dans notre pays ?
Oui, cette question qu'on appelle de l'inclusion numérique, hein, effectivement, elle fait l'objet d'une prise de conscience croissante, hein, de la part notamment des autorités gouvernementales, sur la nécessité de pas seulement déployer des infrastructures. On pourra se reparler des zones blanches, hein, pas seulement déployer des infrastructures, mais s'assurer que l'ensemble de nos concitoyens sont vraiment en capacité de s'approprier les technologies numériques. Il y a eu notamment un rapport du Défenseur des droits il y a quelques mois, qui, concernant la dématérialisation d'un certain nombre de procédures administratives, donc qui basculait en ligne, notait que il y avait une frange de la population, notamment des personnes âgées, notamment les personnes les plus éloignées du travail et de l'éducation, qui pouvaient souffrir d'une forme d'exclusion numérique. Donc pendant la crise pendant la période de confinement, il y a eu des mesures, je dirais, d'urgence et de mobilisation qui ont été mises en place, notamment donc la plateforme Solidarité numérique, qui a permis de recruter rapidement plus de 2000 volontaires pour faire de la médiation numérique, donc étaient des fonctionnaires, des bénévoles d'associations, et qui donc ont permis d'accompagner des personnes qui galéraient dans des démarches, qui n'arrivaient pas à se connecter, qui avaient des problèmes extrêmement concrets dans leur vie de tous les jours, et donc pour développer ce type de médiation et d'accompagner effectivement cette intégration vers le numérique. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, au-delà de la mobilisation d'urgence qui a eu lieu, il va sans doute falloir changer un petit peu d'échelle par rapport à cette problématique de l'inclusion numérique pour s'assurer que vraiment l'ensemble de nos concitoyens sont capables de faire face à cette technologie.
Bien sûr. Michael Stora, je sais que vous avez demandé la parole, mais je voudrais juste qu'on fasse un petit détour, si ça vous ennuie pas, par les Alpes de Haute-Provence, parce que Mathieu est au bout du fil. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir, comment allez-vous tous?
Écoutez, je pense que tout le monde va bien, on est content de vous entendre.
C'est bien.
Vous avez un petit souci de couverture internet, vous, c'est ça?
Oui, bah c'est à la fois un problème éducatif, électronique et politique, parce qu'on se demande vraiment, le Pays de Forcalquier où j'habite, le Pays de Christophe Castaner, a une grande majorité de jeunes familles, de gens qui sont cultivés, où il y a beaucoup de résidents secondaires, de Parisiens qui appartiennent à des ministères, le ministère des Affaires étrangères, la culture,
bon, d'accord.
Ça circule, l'information circule. Et on s'étonne, on a l'impression, je vais commencer tout de suite par ma question, mais je suis obligé de commenter, on a l'impression d'une volonté de ne pas développer normalement le numérique, parce que Monsieur Castaner, le sénateur, le maire de mon village ont fait le maximum pour qu'il y ait la fibre optique, qui est dans tous les villages, qui arrive à l'entrée des villages, point barre. Et ça s'arrête là.
Et les campagnes sont moins desservies, c'est ce que vous voulez dire?
Pardon?
Je veux dire, les campagnes sont moins bien alimentées, c'est ce que vous voulez dire?
Ah non, elles sont pas moins bien alimentées, elles sont mal alimentées, puisqu'à l'entrée de tous les villages du Pays de Forcalquier, il y a la fibre optique.
Alors on va demander.
La fibre optique est à l'entrée du village et ça s'arrête là. Voilà.
Merci Mathieu. On va demander Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes. Pourquoi est-ce que il reste des zones comme ça qui ne sont pas reliées?
Oui, je dirais que on est face à un défi qui est très important et sur lequel il y a des plans gouvernementaux qui sont en cours et qui évidemment pour ceux qui n'en bénéficient pas encore sont trop longs à arriver par définition. Donc il y a deux types de problématiques auxquelles il faut faire face. La première c'est celle des réseaux fixes, c'est-à-dire ce qui remplace le téléphone, donc en particulier la fibre optique, et le deuxième c'est celui du réseau mobile. Alors là, effectivement, pendant le confinement, on a été particulièrement sensible à la question des réseaux fixes. Donc le projet dans lequel est engagé le pays, c'est de construire une nouvelle infrastructure. L'équivalent du plan téléphone des années 70-80 est en cours de déploiement dans notre pays. Et il faut voir que l'année dernière, en 2019, il y a eu 4,9 millions de lignes en fibre optique qui ont été construites dans notre pays. Donc c'est vraiment considérable. Par rapport à amener à la population au nombre de foyers, d'environ entre 30 et 35 millions en France, on a donc raccordé 4,9 millions de lignes l'année dernière. Donc c'est un énorme chantier qui bien évidemment est trop lent pour ceux qui n'en bénéficient pas encore, mais qui est vraiment en marche. Et qui va apporter un débit important à l'ensemble de la population. Alors dès la fin de l'année 2020, il y a un premier rendez-vous qui existe, qui n'est pas celui de la fibre optique pour tous, puisque comme je l'indiquais, c'est un chantier au long cours, mais qui est celui de garantir à chaque foyer français un débit de 8 mégabits. Ce qui est déjà une étape importante, puisqu'avec 8 mégabits, vous pouvez commencer à faire de la vidéo. Alors, dans un certain nombre de zones, la solution va être le satellite pendant un certain nombre d'années. Mais tous les chantiers qui sont mis en mouvement visent à ce que des réseaux filaires puissent arriver, donc des réseaux de la fibre optique puissent arriver, ainsi que des réseaux 4G, ce qu'on appelle la 4G fixe, qui permet d'utiliser le réseau de la 4G mobile, mais pour avoir une 4G box chez soi qui permette de connecter de se connecter à Internet, ou le THD radio, enfin, c'est une autre technologie qui est entre les mains des collectivités locales, qui leur permet de déployer des réseaux locaux qui vont amener ce très haut débit à 30 mégabits. Donc, c'est une combinaison de technologies qui est en train d'être déployée. Un premier rendez-vous très important, la fin de l'année, 8 mégabits pour tous. Un deuxième rendez-vous, qui est celui de la fin 2022, dans lequel le gouvernement souhaite que 100% des foyers aient au moins 30 mégabits. Et puis, il y a un autre rendez-vous, qui est celui de carrément amener la fibre à quasiment tous les foyers, et qui, celui-là, est en cours de précision dans les travaux gouvernementaux, avec une date de référence en 2025, qui doit être encore confirmée avec des financements qui doivent être précisés, pour vraiment faire en sorte que, comme le téléphone, tout le monde ait accès à la fibre.
Voilà, j'espère que Mathieu a été un petit peu rassuré. Michael Stora, vous demandiez la parole tout à l'heure, vous l'avez.
Oui, non, mais alors là, ça va être compliqué, parce que je vois pas trop le lien concrètement sur... Non, c'était sur l'idée de médiation numérique. Parce que ce que j'ai pu remarquer au fond, c'est que cette période a fait que, vous savez que lorsqu'on parle de fracture numérique, elle se situait au sein même de la famille, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'il y avait une forme d'incompréhension entre parents, enfants, adolescents, sur l'utilisation entre autres des jeux vidéo. Et j'ai toujours pensé que, paradoxalement, cette période de confinement a encouragé le fait que les parents s'intéressent pour une fois à ce que font ou ce que regardent ou à quoi jouent leurs enfants. Et j'ai trouvé que, parce que je voulais être un peu positif pour montrer que quand même il y a eu à ce moment-là des dialogues intergénérationnels sur les plaisirs, voire même certains parents ont jouer enfin avec leurs enfants et au risque de perdre d'ailleurs, mais en soi c'est toujours intéressant, et que nos enfants nous montrent leurs vidéos. Des familles elles-mêmes ont créé des sortes de vidéos familiales TikTok, donc j'ai vu aussi des choses tout à fait intéressantes. L'envers du décor, c'est que j'ai reçu aussi pas mal d'appels de parents dont les enfants préalablement jouaient de manière souvent problématique et excessive, et je sais que malheureusement le confinement a amplifier ce phénomène qu'on évoquerait comme addiction, et c'est vrai que on peut imaginer qu'au retour, parce que là on arrive aux vacances, mais que il y ait des gros soucis. On a parlé à un moment de décrochage scolaire, mais c'est vrai que on perçoit déjà que certains jeunes malheureusement ont un peu sombré, parce que préalablement il y avait déjà des soucis. Et c'est vrai que voilà, au fond on a pu voir comment le numérique dans la dynamique familiale a pu être totalement intéressante et dynamique, mais aussi, malheureusement, à nouveau un facteur d'enfermement chacun de son côté.
Et avec aussi des problèmes de cyberharcèlement qui ont été accentués, Nicolas Arpagian, on a constaté ce phénomène-là aussi ?
Alors oui, effectivement, parce que bon, le confinement suscite effectivement peut-être un certain ennui, et donc une logique un peu de la bêtise peut être stimulée par cet environnement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'usage numérique a un volet de risque lié justement à cette principe de à distance, le fait de pouvoir mener des actions contre des amis, mais même on a vu en plaisantant des enfants qui avaient qui prenaient le contrôle des systèmes de visioconférence de leur classe, parce que effectivement coupant le micro de leur professeur, voire certains qui utilisaient des systèmes non protégés, qui se sont immiscés dans des classes, alors faisant des happenings, des espèces des blagues pour perturber la classe. Il y a cet apprentissage de la sécurité numérique. On recommande beaucoup chez Orange, on soutient la démarche cybermalveillance.gouv.fr. C'est le fait d'avoir un site où on peut expliquer en langage très très peu technique et concret comment est-ce qu'on peut se prémunir contre un certain nombre d'agressions, les démarches à entreprendre, quel site et quel élément fournir si l'on souhaite éventuellement soit porter plainte ou mieux se protéger. Donc cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site régulièrement mis à jour et qui permet d'avoir des clés. Elle est quelquefois, même si par exemple on a l'impression que ces données personnelles, donc les noms, prénoms, date de naissance, numéro de téléphone, éventuellement carte bancaire, ont été captées à l'occasion d'un formulaire qu'on a rempli, et puis on a un doute sur la sincérité de celui qui a capté l'information, vis-à-vis de la commission informatique et liberté, il y a des signalements qui sont possibles, et là encore des adresses simples mais qui permettent de trouver une assistance dès lors qu'on serait confronté effectivement à des actions malveillantes.
Voilà, ne pas hésiter à se faire aider. Roselyne est dans le Gers et elle patiente depuis un petit moment, alors on va la prendre. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir.
Merci pour votre patience, bienvenue.
Je vous en prie. En fait, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, évidemment, vos invités. Un petit mot avant d'intervenir sur pourquoi j'avais appelé à l'origine. Évidemment, moi, j'ai eu beaucoup de collègues qui ont découvert le télétravail avec toutes les difficultés que ça comporte. C'est-à-dire, finalement, aujourd'hui, le constat, c'est qu'ils sont pressés de rentrer et de revenir au bureau. Ils ont été pressés de revenir au bureau parce que le télétravail, c'est un... En fait, ils ne s'imaginaient pas tout ce qu'il fallait, entre guillemets, les conditions dans lesquelles il fallait être pour être bien en télétravail vis-à-vis de son entreprise et des clients avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, le télétravail, si vous n'avez pas une bonne connexion et si vous n'êtes pas isolé dans une pièce dédiée à votre activité professionnelle, eh bien...
Vous faites du télétravail, Roselyne, c'est ça?
Oui. Oui, moi j'en faisais déjà avant le confinement. Mon activité professionnelle m'amène à faire 50 à 60% de mon temps de travail en télétravail déjà avant le confinement. Et du coup, moi, le confinement en télétravail n'a rien changé. J'ai travaillé 100% en télétravail, mais pour moi, ça n'a strictement rien changé.
Et vous le vivez plutôt bien, si je vous entends bien?
Complètement. Et en fait, pour le vivre bien, parce que mes collègues qui le découvraient, qui ont découvert le télétravail au moment du confinement, aujourd'hui, le constat qu'ils font, c'est que finalement, ils sont très contents de revenir au bureau pour être justement en lien, d'abord social avec les collègues, et puis ensuite pour être plus à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions, en fait. Donc voilà. Donc c'est par rapport à la connexion, par rapport aussi à l'environnement, c'est-à-dire que voilà, d'avoir les enfants à la maison, l'époux, l'épouse à côté, etc., que c'était pas facile forcément d'être en télétravail. Certains l'ont pas très bien vécu, en fait.
Merci beaucoup, voilà. Roselyne. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose?
Pour le lien social avec mes amis, en fait, pendant ce télétravail, et les vies apéros, donc par Skype ou autre plateforme, moi, ça m'a permis vraiment de découvrir que je pouvais être plus proche de mes amis en étant très loin d'eux, et que finalement, ils étaient à 2 km à la ronde pour 5 couples, et moi, je suis à 800 km, et en fait, je me sentais aussi proche d'eux, du coup, en partageant ces apéros avec eux, en étant malgré la distance qui nous séparait. Ça a été une vraie découverte, et donc de se dire que on peut s'éloigner d'eux sans forcément être très loin, en fait, et que ces apéros, ils avaient le mérite de nous voir visuellement et virtuellement, et que ça nous faisait à tous du bien.
Merci Roselyne pour ce témoignage archi positif. Michael Stora, vous voyez qu'on peut avoir les relations heureuses à travers tous ces outils.
Oui, mais au fond, le virtuel, c'est quoi? C'est la présence de l'absence. Et je pense que, alors, c'est intéressant parce qu'elle évoque qu'elle était habituée au télétravail habitué. Et c'est vrai que je pense que cette forme d'habituation fait que, au fond, le lien virtuel peut, d'une certaine manière, s'incarner. Mais c'est vrai que j'ai eu d'autres retours. Alors, je vais pas envie de faire le corbeau, mais un peu plus négatif sur les apéros, entre autres, FaceTime ou autre, parce que justement, quand on raccroche, il y a un sentiment de solitude qui parfois est encore plus intense. Mais c'est sûr que moi j'ai toujours imaginé que le Skype tel qu'on l'imaginait pour même des gens avant même le confinement, des parents qui vivent dans d'autres pays, les grands-parents, toutes ces choses-là avaient une vraie utilité parce qu'elles permettaient par la vue quelque part de prendre l'autre et finalement d'avoir une sorte de sentiment de proximité. Mais à nouveau, je reviens sur l'idée que ce qui vient confirmer le fait qu'on est en lien avec l'autre, c'est pas uniquement le visuel. Et je pense que notre surinvestissement du visuel dans notre société est en même temps intéressant à observer, à comprendre, mais il reste partiel. Et je crois que, à nouveau, c'est ce qui va nous permettre de nous sentir en lien avec l'autre, c'est de le prendre dans les bras, c'est de lui toucher la main. Et je crois que le fait que beaucoup de personnes aient eu envie de rompre avec le télétravail était aussi important, au-delà du fait que le contexte, parfois, évidemment, n'était pas favorable à beaucoup de niveaux.
Sébastien Soriano, vous souhaitiez intervenir, président de l'ARCEP.
Oui, je dirais en complément de ce qui vient d'être indiqué, cette bascule d'une partie de nos vies dans le monde numérique, elle pose aussi une question sur les conditions dans lesquelles nous profitons de ces technologies. C'est-à-dire que ces technologies, elles sont amenées par un marché, par la loi de l'innovation, par la loi de la concurrence. Donc c'est un marché libre dans lequel ces innovations arrivent. Et il y a quand même une interrogation à se poser à un moment, au fur et à mesure où on voit l'ensemble de nos habitudes de vie qui vont basculer du monde physique au monde réel, même si, comme ça a bien été dit, il faudra bien garder quand même tout un tas d'activités physiques qui sont indispensables. Se pose quand même la question des garanties qui sont apportées sur le fait que nous sommes bien maîtres de nos vies à l'intérieur de cet environnement numérique. Il y a la question des données personnelles dont on a déjà parlé, de la cybersécurité, mais il y a d'une manière aussi plus générale la question du choix. Comment est-ce qu'on choisit de faire appel à telle application plutôt que telle autre? Et on sait que dans cet univers, il y a un pouvoir extrêmement important qui a été pris par quelques grandes firmes internationales, ce qu'on appelle les fameux GAFA, qui se sont imposées grâce à des innovations exceptionnelles et qu'il faut saluer, mais qui aujourd'hui, pour une part, sont des innovations qui ne sont pas contrôlées, dont nous n'avons pas toutes les informations, dont nous n'avons pas tous les tenants et aboutissants, parce que c'est le libre fonctionnement du marché. Et ça doit nous interroger aussi sur une question de souveraineté, entre guillemets, pas seulement souveraineté au sens de la souveraineté d'un État qui devrait prendre contrôle sur la technologie, mais au sens de la souveraineté individuelle. Est-ce qu'on est certain que dans cet univers numérique, on est vraiment en situation de maîtrise, en situation de choix? Et aujourd'hui, ça se fait par le libre jeu du marché, et on pourrait aussi imaginer d'avoir davantage de contrôle, qu'il y ait davantage de régulation qui soit posée sur ces acteurs.
Et ben voilà, et le mot de la fin sera pour Nicolas Arpagian sur cette question que vient d'aborder Sébastien Soriano et qui est évidemment, j'imagine, essentielle.
Alors effectivement, parce que il faut des utilisateurs qui sont à la fois, je vous le rappelle, citoyens, internautes, consommateurs, salariés, voire entrepreneurs, donc dans toutes les différentes facettes, plus ils pourront avoir un œil sur leurs droits, sur la connaissance d'une technologie, sur la compréhension du modèle économique de l'outil qu'on leur propose, plus ils pourront choisir en connaissance de cause. Et c'est vrai qu'on a vu des grands acteurs du numérique, ceux que présentait Sébastien Soriano, qui à un moment ont renoncé à certains outils parce qu'ils ont vu que le marché, les consommateurs, les citoyens ne suivaient pas. Donc il faut toujours distinguer en ce que la loi autorise, la technologie permet, mais ce que l'opinion, la société accepte. Et donc c'est vrai que plus on aura des consommateurs éclairés, moins ils subiront justement ces technologies, et ils en seront des utilisateurs épanouis.
Ce sera le mot de la fin. Un très grand merci à tous les trois, Sébastien Soriano, Nicolas Arpagian, Mickaël Stora. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. C'est la fin de ce téléphone sonne. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Demain, rendez-vous à 18h15. Nous serons avec la publicitaire Mercedes Hera.